Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, Eric Manelakidza avec vous dans cette édition du vendredi 29 avril 2022. Au sommaire, tournée du chef de l'ONU en Afrique de l'Ouest de samedi à mercredi. En Centrafrique, 6 militaires tués par des rebelles dans le sud-est au Mali. L'ONU profondément consternée par la suspension définitive de France 24 et RFI. Liberia, la justice finlandaise a acquitté un ex-rebelle jugé pour crime de guerre. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, effectuera de samedi à mercredi une tournée au Sénégal, Niger et Nigeria. Il devra souligner les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine sur le continent africain, ont indiqué vendredi les Nations Unies. Au Sénégal, il participera à une rupture de jeûne à l'occasion du Ramadan avec le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Antonio Guterres rencontrera aussi les présidents du Niger, Mohamed Bazoum, et du Nigeria, Muhammadu Buhari. Monsieur Guterres aura aussi des réunions avec des représentants de la société civile et des responsables religieux. Des entretiens sont également prévus avec des victimes de violences, d'instabilité et de terrorisme au Sahel, a précisé le porte-parole onusien. L'ONU se dit profondément consternée par la suspension définitive de RFI et France 24 au Mali et s'inquiète plus largement des atteintes à la liberté de la presse et d'expression de la part de l'autorité de transition. Les détails avec Ginny Kapombo-Villa.
Nous demandons à l'autorité militaire de transition du Mali d'annuler cette interdiction et de permettre aux médias indépendants de travailler librement dans le pays, a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme à Genève. La décision de sanctionner RFI et France 24 intervient dans un climat tendu suite aux accusations de la junte malienne d'espionnage et de subversion par l'armée française après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi dans le centre du Mali que les soldats français venaient de restituer à l'armée malienne. La junte avait ordonné le 17 mars la suspension de RFI et France 24 après la publication par ses médias français d'informations selon lesquelles l'armée malienne était impliquée dans des exactions contre des civils. Le retrait des troupes françaises du Mali annoncé par Paris en février est toujours en cours et devrait prendre fin cet été.
Les dirigeants de la CEDEAO se sont mis d'accord vendredi sur une stratégie régionale climat. En accord avec l'Union européenne, ils ont prévu de dépenser 294 milliards de dollars dans les 10 prochaines années pour répondre aux défis du changement climatique. La CEDEAO a donné 10 000 tonnes de vivres au Burkina Faso, pourtant suspendu des instances de cette organisation depuis le coup d'État qui a porté au pouvoir fin janvier le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La junte a fixé à 3 ans la période de transition avant la tenue d'élections, mais la CEDEAO souhaite que cette période soit revue à la baisse. Plus de 4 000 Nigériens ayant fui les exactions djihadistes dans le nord-est du pays vers le Niger voisin sont rentrés chez eux malgré l'insécurité et des services quasi inexistants dans la région. Les travailleurs humanitaires craignent que ce retour cause davantage de victimes et de déplacés car la ville reste proche de zones contrôlées par les insurgés. Au moins 6 soldats ont été tués hier dans une attaque de rebelles dans le sud-est de la Centrafrique, en proie depuis plusieurs années à une guerre civile. Jacques Aristide.
L'attaque a eu lieu vers 4 heures du matin dans la ville de Nzako, à 700 km de la capitale Bangui, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Au moins 3 rebelles ont également été tués. Les rebelles se sont repliés dans la brousse après avoir pillé la ville, mais Gabem Boli Fouélé, député de la région, est d'avis qu'ils vont revenir. Le parlementaire pointe la responsabilité des rebelles, membres de la coalition des patriotes pour le changement, créée à la fin de 2020 pour renverser le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. La République centrafricaine est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile qui a baissé d'intensité menée depuis 2018. Il y a environ 2 ans, le président Touadéra a appelé Moscou à la rescousse de son armée démunie. Des paramilitaires russes ont permis en quelques mois de repousser l'offensive des rebelles, puis de les refouler d'une grande partie des territoires qu'ils contrôlaient. Mais l'autorité de l'État n'a jamais été réinstallée partout dans le pays.
Toujours en Centrafrique, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés vendredi devant l'Assemblée nationale à Bangui pour soutenir le président Faustin-Archange Touadéra et réclamer un changement de la constitution centrafricaine. L'opposition et la société civile s'inquiètent d'une modification ouvrant la possibilité au président Touadéra de se présenter à un troisième mandat interdit par les textes en vigueur. Le gouvernement éthiopien a qualifié vendredi de mensonge le retrait annoncé par les rebelles du Tigré de la totalité de la région voisine de l'Afar et les a accusés de gêner l'acheminement de l'aide humanitaire. Le 4e volet d'un rapport d'enquête accablant sur les machinations ayant abouti au pillage des caisses de l'État en Afrique du Sud pendant la présidence de Jacob Zuma a été remis vendredi à la présidence. Ce rapport dit que Zuma a été un acteur essentiel du plan. Le nouveau volet portait notamment sur les malversations au sein de la compagnie publique d'électricité Eskom. Le rapport final doit être rendu avant le 15 juin. Le président Cyril Ramaphosa, qui a fait de la corruption son cheval de bataille, devra décider d'éventuelles poursuites devant la justice. Plus de 3000 migrants tentant de rejoindre l'Europe sont morts en mer l'année dernière, 2 fois plus qu'en 2020, a indiqué vendredi l'ONU, qui veut des alternatives à ces fuites désespérées et dangereuses. Claire Morisbourg.
D'après le HCR, 1924 personnes ont été déclarées mortes ou disparues en Méditerranée centrale et occidentale. 1153 autres ont péri ou ont été portées disparues sur la route maritime vers les îles Canaries. Selon l'agence onusienne, la pandémie de Covid-19 et les fermetures de frontières ont eu un impact sur les flux migratoires. De nombreux réfugiés et migrants se tournant vers des passeurs pour tenter de rejoindre malgré tout l'Europe. Ainsi, plus de 53 300 personnes sont arrivées par la mer en Italie l'an dernier, soit 83% de plus qu'en 2020. Les départs en mer depuis la Tunisie ont augmenté de 61% et de 150% depuis la Libye. La Méditerranée centrale est la route de migration la plus meurtrière, avec plus de 17 000 morts et disparitions enregistrées depuis 2014, d'après l'Organisation internationale pour les migrations.
Le Conseil de sécurité de l'ONU divisé a adopté vendredi à l'unanimité une résolution du Royaume-Uni prolongeant jusqu'au 31 juillet 2022 sa mission politique en Libye. La Russie veto en main a refusé toute durée plus longue avant la désignation d'un nouvel émissaire onusien. Le texte demande au secrétaire général de nommer rapidement un émissaire qui sera basé à Tripoli. La résolution exige du chef de l'ONU un rapport mensuel sur son application jusqu'à fin juillet.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au 65e jour du conflit entre Moscou et Kiev, les combats se poursuivent dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine. Une nouvelle tentative d'évacuation de civils de la ville de Mariupol pourrait être menée ce vendredi. Le point avec Nani Talani.
Selon la présidence ukrainienne, une opération destinée à sortir les civils du complexe industriel d'Azovstal à Mariupol est envisagée pour aujourd'hui. Des centaines de militaires et civils ukrainiens, dont des dizaines d'enfants, sont retranchés dans l'immense aciérie. Le port de Mariupol est contrôlé par les forces russes après des semaines de siège. Le gouverneur russe de la région de Koursk, frontalière à l'Ukraine, Roman Starovoyit a annoncé ce vendredi sur Telegram une nouvelle attaque au mortier dans sa région en provenance du territoire ukrainien. Moscou revendique la frappe intervenue jeudi sur Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que cette frappe visait à humilier l'ONU. Il n'existe aucun bilan global des victimes civiles. Rien qu'à Mariupol, les autorités ukrainiennes parlent de 20 000 morts en raison des combats, mais aussi de l'absence de nourriture et d'électricité. Selon les Nations Unies, Plus de 5,3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays et 90% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants.
Les États-Unis ont dit refuser de traiter avec Vladimir Poutine comme si de rien n'était par rapport à la participation de la Russie au sein de la communauté internationale ou des institutions internationales, a déclaré à la presse la porte-parole adjointe du département d'État, Jelena Porter, qui n'a pas dit si les États-Unis participeraient ou non au sommet. Elle commentait l'invitation du président russe au sommet du G20 prévu en novembre, tout comme son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Des milliers d'Iraniens ont manifesté vendredi à travers le pays pour marquer la journée de Jérusalem en soutien aux Palestiniens, alors que la tension est très vive depuis plus d'un mois dans les territoires palestiniens et en Israël. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
Au Cameroun, le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières, Henri Eyebéaïssi, a annoncé la suspension des transactions foncières dans 21 départements sur 58 pour juguler les ventes illégales des terres du domaine national. Selon le ministère, les conflits fonciers représentent 85% des affaires des juridictions administratives et 65% au plan judiciaire. Au Togo, le gouvernement a annoncé le dépôt de sa candidature au Commonwealth en juin lors du sommet de l'organisation au Rwanda. Lomé dit vouloir attirer des investissements étrangers et renforcer ses échanges commerciaux extérieurs. Les députés ont voté le 22 avril pour l'entrée du Togo au Commonwealth. Total Energy dit envisager de vendre les 10% d'intérêt qu'elle détient dans des actifs terrestres et en eau peu profonde au Nigeria. L'an dernier, Shell a décidé de céder ses actifs pétroliers terrestres. Les offres de 4 sociétés locales sont en cours d'étude et ExxonMobil a signé en février un accord de 1,6 milliard de dollars avec la compagnie locale Seplat Energy.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Nanit Sylvanie Talani avec nous ce soir. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Le tirage au sort de la CAN féminine 2022 aura lieu ce soir à 20h temps universel au Maroc, pays hôte de la compétition. Ce sera la première phase finale de cette compétition avec 12 équipes qui seront réparties en 3 poules de 4 équipes chacune. Les équipes qualifiées sont le Nigeria, tenant du titre, le Cameroun, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie et bien sûr le Maroc, pays organisateur. L'attaquant de Liverpool, l'international égyptien Mohamed Salah, a été désigné ce vendredi meilleur joueur de football de la saison en Angleterre par les journalistes. Le pharaon a recueilli 48% des votes devant Kevin De Bruyne, le milieu de terrain de Manchester City, et Declan Rice du club de West Ham. Toutes compétitions confondues, Mo Salah a marqué 30 buts. C'est le meilleur buteur du championnat avec 22 buts et 13 passes décisives à son actif cette saison. Le pharaon est l'un des grands joueurs qui aide Liverpool dans sa quête d'un inoubliable quadruplé, incluant la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angleterre, la Ligue des Champions et le Championnat d'Angleterre. Toujours en Angleterre, la buteuse de Chelsea, l'Australienne Sam Kerr, 28 ans, a été sacrée meilleure joueuse. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a prolongé de 2 ans son contrat avec les Reds, avec qui il est désormais lié jusqu'en 2026, selon une vidéo publiée sur le compte Twitter du club jeudi soir. « Je reste 2 ans de plus, ce qui fait encore 4 ans à partir de maintenant », a déclaré le coach allemand arrivé en 2015. Pour terminer, le Qatar a enregistré 23,5 millions de demandes de billets lors de la deuxième phase de vente pour le Mondial 2022 qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre, a annoncé la FIFA aujourd'hui vendredi. Les 8 pays les plus demandeurs sont l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Brésil, les États-Unis, la France, le Mexique et le Qatar. Les supporters argentins semblent parmi les plus intéressés. Les 3 matchs de groupe de l'Albi Céleste figurent parmi les 4 rencontres les plus demandés.
C'était les sports de Nanit Sylvani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manila Pizza, place au dossier du jour. L'armée camerounaise affirme que des civils ont enterré cette semaine des dizaines de combattants séparatistes dans des fosses communes, après que les troupes gouvernementales ont lancé des raids sur les bastions rebelles dans les régions occidentales du pays. Un porte-parole séparatiste a accusé l'armée camerounaise d'avoir exécuté ces combattants capturés, ce que l'armée nie. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé au Cameroun. Le récit est signé Claire Morin-Gibourg.
Une vingtaine de personnes disposent 8 cadavres dans une fosse commune à Guzang, un village de la région anglophone dans le nord-ouest du Cameroun. Dans une vidéo largement partagée sur les plateformes de médias sociaux, des personnes affirment que 7 de ces cadavres qu'ils enterrent sont identifiés comme des combattants séparatistes et un civil. L'armée camerounaise a déclaré jeudi que des civils ont enterré des combattants séparatistes tués par les troupes gouvernementales à Guzang. L'armée dit avoir mené des raids la semaine dernière dans des villes et villages du nord-ouest, notamment Guzang, Batibo, Woum, Ndou, Kumbo et Bafout, où des séparatistes attaquaient et harcelaient des civils. Les autorités camerounaises ont accusé les séparatistes anglophones d'enlèvement contre rançon, de perturbation de la circulation et d'attaque contre des bâtiments publics. L'armée affirme que plus de 40 combattants, dont 3 généraux autoproclamés, ont été tués dans ces raids. Capo Daniel est chef adjoint de la défense de l'un des groupes séparatistes. Il reconnaît que des combattants ont été tués, mais ne précise pas leur nombre. Par contre, il affirme que les troupes gouvernementales ont commis de graves violations des droits humains contre des combattants, y compris ceux tués à Guzang.
Six de ces combattants, dont un civil, ont tous été capturés vivants. Leurs mains étaient liées dans le dos avant d'être exécutés. Dans un deuxième endroit, toujours à Guzang, 4 combattants ont été capturés, leurs mains liées dans leur dos. 2 d'entre eux sont morts plus tard de blessures par balles. Un autre a été exécuté sur la place du marché de Guzang. L'attaque militaire contre nos combattants de la liberté à Guzang est un crime de guerre et un crime contre l'humanité.
Il a aussi déclaré que les combattants ont tué plusieurs soldats gouvernementaux et que les séparatistes ne vont pas abandonner leur combat pour obtenir ce qu'ils appellent la liberté de la minorité anglophone face à la majorité francophone du Cameroun. L'armée camerounaise nie que ses troupes aient été tuées et qu'elle ait commis des crimes contre des combattants. L'armée affirme que les troupes ont répondu pour protéger les civils après que des combattants ont attaqué des civils en tirant sans discernement en l'air. Deben Tchofo, gouverneur de la région anglophone du nord-ouest du Cameroun, a réaffirmé que le gouvernement camerounais pardonnerait aux combattants qui déposent les armes et quittent la brousse.
Il n'est pas nécessaire que quelqu'un aille dans la brousse pour s'exprimer politiquement, socialement, d'après les instructions qui nous sont données. Nous allons à la base pour renforcer la lutte contre la circulation des munitions d'armes de guerre dans la région et faire que tous ceux qui gardent encore des armes soient traduits en justice et poursuivis.
Les séparatistes anglophones ont lancé leur rébellion en 2017 après ce qu'ils qualifient d'années de discrimination de la part de la majorité francophone du pays. Selon les Nations Unies, le conflit a fait plus de 3300 morts et plus d'un demi-million de déplacés.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, le prix du pain pourrait subir une augmentation dans les prochains jours. La baguette qui est vendue à 150 francs CFA passera à 200 francs CFA selon les patrons de boulangerie. Ils pointent du doigt l'augmentation du prix de la farine de blé, le coronavirus, mais aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Ligue des consommateurs n'est pas d'accord. Le gouvernement rassure et annonce des concertations. de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'annonce est faite mercredi par les patrons des boulangeries, confiseries et pâtisseries. De 150 francs CFA actuellement, la baguette de pain pourrait s'acheter dans les prochains jours à 200 francs CFA. Il y a bien de raisons qui expliquent cette hausse probable. Vincent Ouedraogo, porte-parole des patrons de boulangerie.
De janvier 2021 à avril 2022, le prix de la farine de blé est passé de 350 000 francs à 500 000 francs la tonne pour les farines importées et de 338 250 à 450 000 francs la tonne pour les farines produites localement. Nous enregistrons donc une augmentation de 150 000 francs la tonne, soit 42,85% de hausse pour les farines importées et 100 000 francs la tonne, soit 29,56 francs de hausse pour les farines locales. Les premières causes de cette augmentation, nous apprenons, est due à la COVID et à la mauvaise saison ayant entraîné une baisse du stock mondial de blé. Et la deuxième et principale cause, due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ces deux pays respectivement sont troisième et cinquième producteurs et exportateurs de blé.
La Ligue des consommateurs du Burkina n'est pas d'accord avec cette augmentation qu'elle estime injustifiée. Dasmané Traoré, président de la Ligue des consommateurs du Burkina.
Nous avons proposé trois types de structuration et à l'intérieur de ces types, de ces structurations-là, il ressort toujours qu'il y a un bénéfice, soit de 7 francs pour l'un, l'autre, on est à 11 francs, et le troisième, on est pratiquement à 14 francs. Si les boulangers passent de façon forte, nous allons cette fois-ci tenir un sitting au niveau du ministère du Commerce pour signifier le fait que véritablement, nous ne sommes pas contents du fait qu'ils n'ont pas pris des dispositions afin d'arrêter donc cette velléité.
Le gouvernement de son côté essaie de rassurer. Abdoulaye Tall, ministre du Commerce.
Ce n'est pas possible tout de suite de vous dire ça va augmenter, ça ne va pas augmenter. Mais ce que je peux vous dire, ça n'a pas augmenté et la décision sera prise par l'ensemble des acteurs économiques prenant en compte toutes les contraintes et dans le souci de protéger l'intérêt général. Il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude et ces pistes seront analysées par le cadre de concertation et la décision qui sera prise sera portée à l'attention du peuple burkinabé et sera applicable à tous.
Le gouvernement dit comprendre la préoccupation des boulangers justifiant qu'entre la date de fixation du prix actuel du pain à aujourd'hui, le blé a augmenté d'un peu plus de 47%. Et le blé, la farine n'est pas le seul élément constitutif du prix du pain. Il y a d'autres charges comme l'eau, l'électricité, les salaires, affirme le ministre du Commerce, qui indique que tous ces éléments feront l'objet de discussions avec l'ensemble des acteurs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, au mois de février dernier, le quotidien des habitants de la ville de Goma en RDC devient de plus en plus difficile. Les prix des produits importés et ceux produits localement ne cessent de grimper. Le reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaïdi.
Il y a hausse des prix de certains produits à Goma. Il y a aussi une anarchie dans cette flambée des prix. Chaque commerçant donne sa propre justification. Innocent Maliabo et Blaise Chombo sont deux tenanciers de boutique.
Un sac de riz est vendu soit à 22 ou à 24 dollars américains. Celui-ci crée à 66 dollars et un bidon d'huile de 20 litres, je le vends à 48 dollars.
Le secteur pétrolier, qui semble être à la base de toute cette hausse, a aussi un effet direct sur les prix du transport. Les chauffeurs des taxis ne savent plus où donner la tête. L'association des pétroliers du Nord qui vous pointe du doigt la politique économique qui ne prévoit pas des réserves stratégiques, autrement dit avoir des stocks pour faire face à des pareilles situations. Certes, gouverner c'est prévoir, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été comme imprévisible pour le monde entier. Providence Muhiga, président de l'association des pétroliers du Nord Kivu.
Sur la structure de prix, il y a une rubrique qui parle de stock de sécurité, où nous payons 23 dollars par mètre cube. Cela devait nous permettre de constituer le stock de sécurité. Dans les pays voisins, ils ont ce stock de sécurité. Quand au niveau de station ça se termine, on permet aux sociétés qui distribuent le produit pétrolier d'aller s'approvisionner dans le stock de sécurité en attendant que les problèmes qu'il y a sur le lieu d'approvisionnement se terminent. Nous n'en avons pas.
Un avis partagé par Johnson Ishara, un économiste, qui estime que la guerre en Ukraine a poussé plusieurs pays à ne plus exporter des biens de peur d'en manquer pour eux-mêmes, ce qui impacte négativement le quotidien des Congolais.
Il y a des aliments aujourd'hui qui coûtent cher parce que même des pays producteurs, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, qui ne reçoivent plus le coup de main de la Russie en termes d'importation et d'exportation, donc ils préfèrent d'abord consommer localement, garder d'abord leur stock de sécurité et sauver ce qu'il faut sauver avant que la situation se stabilise. Il faut réfléchir sur la possibilité aussi de l'autosuffisance alimentaire, de l'autosuffisance économique, mais aussi avoir le plan des contingences dans des cas pareils.
Cette hausse des prix a aussi fait une autre victime par ses dommages collatéraux. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a perdu son poste après une motion de censure des députés de l'Assemblée nationale le 30 mars dernier. Zanem Netizaïdi Agoma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La Côte d'Ivoire est l'invitée d'honneur en Floride de la conférence annuelle de l'AFI, Association of Food Industry in the US. C'est la conséquence de la certification récente dans le pays d'une dizaine d'unités de production d'amandes de cajou par les autorités américaines. Pour en parler, Jean-Roger Bion a joint en Floride le docteur Adama Koulibaly, directeur général du Conseil de la NARCAD en Côte d'Ivoire.
Nous sommes ici aux États-Unis pour pouvoir faire la promotion des amandes. Origine Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis 2021, la Côte d'Ivoire est devenue troisième fournisseur mondial d'amandes de cajou. Après donc le Vietnam, l'Inde, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui dont nous sommes sur le podium. Mais il est bon qu'au moment donc où notre transformation commence à être visible, que nous l'accompagnons de la qualité. Mais au-delà de cette démarche, il est bon que nous puissions donc être visibles sur le marché et nous savons que les États-Unis sont le premier consommateur d'amandes au monde et donc il est bon que nous puissions donc percer ce marché pour que nos transformateurs n'aient pas de soucis en termes de débouchés une fois qu'ils ont transformé et pour que donc la transformation puisse donc être un axe extrêmement fort et qui stabilise l'avenir de la filière cajou en Côte d'Ivoire.
Vous luttez pour que l'exigence de qualité s'affirme, notamment ici aux États-Unis. Quelle est la démarche mise en place en amont en Côte d'Ivoire pour faciliter cette expansion?
La certification est un processus. Vous avez les experts américains de la FDA qui viennent visiter, auditer les usines. Les 9 unités qui ont été certifiées, voilà le processus que nous avons démarré avec ce cabinet américain, l'administration américaine depuis 2021 et qui a abouti donc en 2022 à la certification des 9 unités. Je rappelle qu'il y avait 13 unités dans la démarche, il y a 5 qui ont échoué, mais il y a 9 qui ont réussi les examens et les 5 ont été reversés dans une troisième phase puisque la deuxième phase a démarré avec 10 autres nouvelles unités qui donc sont dans le processus donc de certification officiellement.
Alors vous êtes maintenant sur le sol américain dans une autre étape. Vous allez rencontrer des opérateurs américains sur place ici, en Floride. Quelles sont les promesses de ces rencontres?
Mais ce qui va en sortir, c'est que nous avons parlé avec des grands groupes qui sont déjà en deal avec des usines en Côte d'Ivoire et qui reconnaissent la qualité des amandes origine Côte d'Ivoire. Et dont leur inquiétude aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent avoir suffisamment de volume? Et donc, nous allons travailler à augmenter donc la capacité de production des amandes en Côte d'Ivoire avec l'installation de nouvelles usines. Et je peux vous dire que la dynamique est extrêmement positive puisque en 2022, il y a 9 nouvelles usines de grande capacité qui vont ouvrir et qui vont donc contribuer à alimenter le marché américain conformément donc à la demande de nos partenaires.
C'était le docteur Adama Koulibaly, directeur général du Conseil de la NARCAD, directeur général du Conseil de la NARCAD en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Daniela Galima et Michel Claire-Joseph. Eric Manilakiza était avec vous à la présentation et c'est Valo Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, retrouvez-nous sur votre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.